Première table ronde, premier débat de cette matinée. L'État a-t-il abandonné les territoires? Je vais vous demander d'accueillir et je vais leur demander de me rejoindre chaleureusement Hippolyte Dalbis du Cercle des économistes, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, Claire Hédon, vous pouvez nous applaudir, présidente d'ATD Quart Monde, Philippe Martin, également du Cercle des économistes, et Philippe Val, PDG du groupe La Poste. Et évidemment, pardon, Philippe Escande du Monde pour animer.
Bonjour à tous. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. Hein. Jean Hervé a réveillé le souvenir de la Datar, qui sent un petit peu la naphtaline des Trente Glorieuses, mais finalement, c'était l'époque où on pensait justement que l'État pouvait tout faire sur les territoires, et puis elle a disparu, changé de nom, de deux fois en quatre ans, ce qui n'est pas forcément un très bon signe. Et puis la révolte des Gilets jaunes a réveillé un petit peu tout ça. Les villes Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nantes sont devenues soudain coupables d'accaparer la richesse et les faveurs de la puissance publique. Alors, c'est un nouveau récit qui a émergé, celui, effectivement, d'une ruralité oubliée des métropoles. Alors, est-ce que l'État a failli et de restructuration en plan d'économie, retiré écoles, hôpitaux, bureaux de poste et gendarmerie qui socialisaient les villages et petites villes de France ? Une étude que j'ai trouvée sur Internet, donc il faudrait la vérifier, affirme qu'entre 1980 et 2013, la France aurait perdu 26% de ses écoles primaires, 36% de ses bureaux de poste et 13% de ses gendarmeries, sans compter les trains qui ne passent plus et les gares qui ferment. Mais qu'y a-t-il de vrai et de comparable dans cette histoire qui ne fait que constater l'évolution de la démographie et la concentration de la vie économique dans les villes? Est-ce que c'était vraiment mieux avant? Et l'État a-t-il provoqué cette situation ou simplement accompagné un mouvement sociologique bien plus profond? C'est la question que nous allons nous poser ce matin avec nos invités qui vous ont été présentés. Et je vais donc tout de suite démarrer avec vous, Philippe Martin. Vous êtes économiste, vous présidez le Conseil d'analyse économique qui est consulté, qui conseille le Premier ministre, qui est rattaché au Premier ministre, qui conseille sur les grands choix économiques. Et vous avez fait plusieurs études, Jean-Hervé en citait une. Il y en a une beaucoup plus récente qui est sortie à la fin de l'année dernière, qui cherchait à comprendre un peu les motivations justement des Gilets jaunes et le rôle de la puissance publique ou de son absence dans ses colères. Alors, est-ce que c'est vraiment, comme on le dit, le recul de l'État dans les territoires qui est responsable de tout ça?
Bonjour, merci. Donc, le point de départ de cette note du CAE, c'est une note de Yann Algan, Clément Malguir et Claudie Assénic. C'est un peu se poser une question en termes d'inégalité, mais pas d'inégalité au sens où les économistes le voient d'habitude, c'est-à-dire de PIB, d'emploi, mais des inégalités en termes de bien-être au niveau territorial. Bien-être, mal-être. Et évidemment, la motivation, c'est ce qui s'est passé avec la question des gilets jaunes, qui est une manifestation, évidemment, de mal-être, et on vient d'en entendre un certain nombre de déterminants. Et donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qui est le meilleur prédicteur du fait qu'une commune ait vécu un événement gilet jaune ou pas? Et puis d'autres manifestations de bien-être ou de mal-être, hein, ça peut être l'abstention aux élections, ça peut être aussi des enquêtes qu'on fait auprès des gens à qui on demande est-ce que vous êtes heureux, pas heureux, etc. Et on a essayé de sortir du cadre économique strict, c'est-à-dire d'aller au-delà de simplement est-ce que c'est lié à l'emploi? Alors, la réponse d'ailleurs c'est oui, c'est lié à l'emploi. En effet, s'il y a une perte d'emploi forte dans une commune, il y a plus de probabilité qu'il y ait eu un événement gilet jaune à la fin de 2019.
C'est pas forcément son emploi personnel, mais c'est celui de la communauté en fait.
Absolument, on est très...
Une perception.
Ce n'est pas simplement votre emploi, c'est aussi l'emploi autour. Et c'est pas le niveau de l'emploi d'ailleurs qui est le meilleur prédicteur du mal-être, c'est plutôt les variations, ce qui s'est passé, la perte. Hein, donc c'est pas le niveau, mais vraiment le film qui compte. Et ce qui est en effet, et c'est en lien évidemment avec la question de cette session, ce qui est un bon prédicteur du fait qu'il y a eu un événement gilet jaune et plus généralement qu'il y ait des manifestations de mal-être dans les communes, c'est la perte des équipements. Ouais. Et ça, c'est robuste. C'est très divers. Donc, dans la presse, en effet, on a beaucoup mis en avant la perte de la supérette, hein, qui est un lieu de socialisation. Il y a quelque chose d'assez impressionnant.
Et ça, c'est
quand
pas
même.
L'État.
Et c'est pas l'État. Même si on pourra revenir. Après, on a en tête en France que l'État, c'est la gendarmerie, l'école, etc., etc. Il peut y avoir des interventions publiques qui sont sur ces grandes infrastructures, qui peuvent être aussi des subventions, par exemple, sur des lieux comme la supérette, comme le café, qui sont des lieux de socialisation, parce que c'est comme ça qu'on interprète, nous, dans cette étude, l'impact très fort, par exemple, de la supérette. Mais ici, ça peut être le café, ça peut être la bibliothèque, ça peut être le cinéma, etc., etc. Et ça peut être très différent d'une commune à une autre. Juste pour vous donner le chiffre, hein, donc, en France, 8% en décembre 2018, il y a eu 8% des communes qui ont fait l'expérience d'un événement gilet jaune. Donc, qu'on interprète comme une manifestation de mécontentement, évidemment, de mal-être, etc. Dans les communes qui avaient perdu dans les 5 dernières années leur supérette, ce chiffre monte à 29%. Hein, donc 8% versus 29%. Donc c'est évidemment, il y a d'autres facteurs, encore une fois, l'emploi compte, les taxes locales, nous on trouve aussi que c'est un bon prédicteur, l'immobilier qui s'effondre et la vie associative. Mais ces équipements sont extrêmement importants parce que justement c'est le sentiment d'abandon et pas simplement le sentiment d'abandon de l'État ou de la puissance publique, puisqu'il y a aussi des infrastructures de type privé où donc des interactions sociales sont extrêmement importantes, et c'est en lien avec ce qui vient d'être dit à l'instant. Hein, c'est ce sentiment d'abandon de l'État, mais aussi de désocialisation et d'individualisation très forte qu'on retrouve dans un certain nombre d'études, que ce soit d'ailleurs par des sociologues ou par des économistes.
Alors, Xavier Bertrand, vous êtes sur le terrain, si j'ose dire. Vous présidez donc la région des Hauts-de-France, qui est une région qui a payé un lourd tribut à la désindustrialisation. Si ça va marcher, vous allez voir.
Trouvé, hein.
Oui, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Et puis, est-ce que, plus globalement, vous estimez que l'État a déserté?
Est-ce qu'il faut... Oui, il fonctionne. D'accord. Est-ce que l'État a déserté? Oui. Oui, mais je serais tenté de dire que l'ensemble des politiques n'ont pas été suffisamment vigilants. Parce que vous prenez notamment sur un grand nombre de métropoles, les élus ne sont pas des représentants de l'État, ne sont pas des martiens, ils ont aussi accentué ce mouvement. Et même ceux qui étaient à la tête de grandes intercommunalités se sont plus souciés de la ville-centre que des communes périphériques, rurales ou semi-rurales. Donc il y a un mouvement de fond, sauf qu'aujourd'hui, la situation a été très bien décrite à l'instant et aussi dans ce qu'a dit Cynthia Fleury, elle devient aujourd'hui terriblement dangereuse. Terriblement dangereuse, non pas sur le lien social, mais aussi sur une autre dimension. C'est que quand l'État abandonne, on ne fait plus confiance à l'État et on en arrive même parfois à pouvoir détester l'État. Parce que l'État qui reste, c'est aussi un État qui est synonyme de paperasse ou de contrainte.
Mais est-ce que ce n'est pas le bouc émissaire facile, l'État?
Non, parce que de toute façon, je vous l'ai dit, qui d'autre que l'État? Les élus, je l'ai dit moi-même tout à l'heure.
Ben, la démographie. Mais l'État, s'il y a moins de monde, il y a moins de supérettes.
Mais sauf que là, derrière,
les supermarchés.
Vous rentrez dans une autre logique. Si effectivement la démographie compte, c'est-à-dire que c'est une question de chiffres, c'est bien ça? Et les gens là-dedans? Et les gens?
Oui. Mais ils sont...
Donc, c'est-à-dire, oui, d'accord. Mais le problème, c'est que si vous appliquez tout avec une règle à calcul, faut pas s'étonner qu'un jour les gens se révoltent.
Donc, moins il y a de gens, plus il faut s'occuper d'eux.
Je n'ai pas dit ça. Je reprends notamment ce que vient de dire un économiste à l'instant. C'est que dans ces cas-là, vous pouvez avoir des politiques appropriées, pas forcément des subventions, mais vous pouvez très bien abaisser le niveau des charges pour qu'une supérette qui n'a plus le bon modèle économique parce qu'elle a pas assez de clients fasse l'objet de moins de charges de façon à pouvoir s'en sortir. Il y a aujourd'hui des politiques totalement adaptées qui sont à faire. Et je vois que tout à l'heure, on souriait un petit peu sur la question de la DATAR. Alors donc, vous avez devant vous un ringard, parce que je devais lancer cette semaine, ça sera au mois d'avril, une forme de DATAR New Look dans la région des Hauts-de-France, une agence de prospective d'aménagement du territoire qui va s'appeler Hauts-de-France 2020-2040, parce que si demain l'État ne s'intéresse plus à l'aménagement du territoire, j'estime que le rôle des grandes régions, c'est de se soucier de l'aménagement du territoire. Donc vous voyez, c'est pas seulement l'État, parce que l'État c'est nous tous, mais derrière c'est aussi une responsabilité avant tout politique. On oublie un peu trop que la moitié des Français habitent dans des communes de moins de 10 000 habitants.
Voilà. Et souvent, effectivement, ils ne travaillent pas là où ils habitent.
Hippolyte. Mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. C'est aussi la question de l'emploi. Il y a les services publics, mais il y a très clairement aussi la question de l'emploi. Et si vous voulez renouer avec de l'emploi dans les territoires, il y a des choses qui s'appellent l'artisanat et qui s'appellent l'industrie.
Dans ce que vous avez observé, est-ce qu'il y a un service de l'État, enfin, qui vous vient à l'idée, qui symbolise un peu ce recul de l'État?
Pour beaucoup de Français, vous l'avez dit tout à l'heure, les gendarmeries. Les fameuses communautés de brigades qu'on a mises en place voilà quelques années avaient un effet, soi-disant, de rendre les choses plus efficaces. Mais le contact, ce lien qu'il y avait avec les gendarmes en milieu rural est quelque chose qui s'est brutalement rompu pour les élus comme pour la population. Les gendarmeries, c'est un exemple très fort.
Oui, c'est vrai, et dont on parle pas très souvent. Alors, Hippolyte Dalbis, sur ce tableau finalement un peu noir... Vous avez porté un regard assez différent. Donc, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste de la démographie, justement, on en parle. Et vous avez décidé de vous intéresser aux inégalités entre les départements. Expliquez-nous.
Les départements, c'est une unité administrative qui est très ancienne. Elle a été créée sous la Révolution, auquel les gens sont finalement très, très attachés. Je crois qu'il y avait 20% des sites Facebook, des Gilets jaunes, qui faisaient référence au département. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi de la séquence sur les plaques minéralogiques, ou la disparition du numéro. Donc il y a quelque chose qui est très présent. Et du coup, c'est une unité qui est non seulement qui est stable dans le temps, auquel les gens sont attachés, et qui est intéressante, en effet, pour regarder les inégalités. Alors c'est vrai que si on regarde habituellement les indicateurs économiques, comme d'activité ou de salaire ou de... Voilà, ou de revenus que l'on peut avoir d'une activité économique, on voit une très forte concentration et une très forte divergence. Vous voyez, il y a certains départements qui montent et puis d'autres qui diminuent. Donc voilà, il y a ces inégalités et on peut parler éventuellement d'explosion des inégalités. Et moi, j'ai regardé une autre perspective. On a un travail finalement historique de reconstitution des revenus, c'est-à-dire de l'ensemble des revenus, du revenu fiscal par département, et on regarde ça depuis à peu près 100 ans, et on compare en fait les inégalités de revenus entre les départements français. Et là, le constat est complètement à l'inverse. C'est plutôt qu'il y a une énorme diminution des inégalités, mais vraiment phénoménale, entre les départements français, et même, si je puis dire, entre le département de la Seine, je vais parler en ancien département parce que je suis sur... j'étais pas né quand il y a eu la scission, mais néanmoins je continue à utiliser le mot de la Seine, vous voyez, qui est évidemment le département leader.
Paris et quelques... la petite couronne.
Donc vous voyez, vous avez ce département qui est toujours le département dans lequel en moyenne on est le plus riche, et si on le compare, si vous voulez, aux autres départements français, je veux dire, le rattrapage est massif. Il faut voir qu'aujourd'hui, si on prend le revenu fiscal après impôt sur le revenu, il y a 100% des départements qui ont au moins 60% du revenu, vous voyez, de la Seine. D'accord, on peut dire qu'on est loin de Paris si on a moins de 60% du revenu. 100%. Je veux dire, en 1950, on était à 10%. 10% des départements. C'est-à-dire 90% des départements avaient moins que 60% du revenu.
Ça, c'était la réalité de Paris et le désert français qui était sorti après-guerre et qui pointait ça.
Voilà, alors c'est un petit peu ça, mais je veux dire, le phénomène de rattrapage, il est absolument colossal. Alors comment est-ce qu'on concilie, si vous voulez, d'un côté le fait qu'on voit bien que l'activité économique se concentre et que d'un côté, au contraire, les inégalités de revenus diminuent? C'est bien parce qu'il y a l'État. Vous voyez, l'État est aussi présent comme fournisseur, comme organisateur, si je puis dire, du système de transfert. Vous avez les retraites, vous avez un très grand nombre de pensions, etc. Et donc, certes, il a peut-être abandonné certains territoires en tant que fournisseur de services, mais en tant qu'organisateur du système de transfert, il est là et il est plus que jamais là, et de façon absolument incroyable.
D'accord. Alors, Claire Hédon, vous présidez donc l'association ATD Quart-Monde, qui s'intéresse justement aux poches de pauvreté. Alors, comment vous conciliez ce qui a été dit là avec la réalité que vous constatez de la pauvreté sur le terrain ?
Ça m'intéresse ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, moi, je me disais, la question, nous qui travaillons avec les personnes les plus exclues, c'est pas tellement les territoires abandonnés, c'est les personnes abandonnées sur les territoires, et quel que soit le territoire. Je pense que même sur des territoires riches, ou même sur des territoires relativement pauvres, les plus pauvres sont abandonnés. Et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant à étudier et à rechercher. Et vous savez qu'une de nos grandes batailles, là, pour l'instant, dans le mouvement ATD Quart-Monde, c'est la question de l'étude d'impact de l'ensemble des politiques publiques sur les 10% les plus pauvres. Et même, il faudrait descendre au centile, et les dernières études qui viennent de sortir, que ce soit l'IPP, l'OFCE et même l'INSEE, les 5% les plus pauvres depuis 2 ans ont perdu en pouvoir d'achat et ont vraiment, parce que les mesures, par exemple gilets jaunes, n'ont eu aucun impact sur les vraiment plus pauvres, ceux qui n'ont aucun emploi.
D'ailleurs, les gilets jaunes, c'était pas les pauvres, quoi. C'était
exactement. Il y avait très peu. Nous, on a bien vu dans les militants Carmonde, il y en avait quelques-uns qui ont été quand même sur les ronds-points, mais très très peu. C'était pas tellement à eux que s'adresser. Puis d'abord, quand on est en très grande précarité, se mobiliser, c'est quelque chose de compliqué. Et par rapport à ce que disait Cynthia Floyd tout à l'heure, nous, on voit bien que dans la définition de la pauvreté, il y a toute une partie qui est l'isolement, la honte, on se cache. Et dans une étude qu'on a menée avec l'université d'Oxford dans 6 pays, est ressorti l'empêchement du pouvoir d'agir. Empêchement, certainement en partie personnelle, c'est-à-dire on n'y croit plus, on est tellement découragé, et aussi d'une société qui finalement empêche d'agir, et parce qu'elle a abandonné ces personnes qui sont les plus exclues. Donc voilà, moi ce que je veux dire, c'est les personnes abandonnées sur l'ensemble des territoires, et c'est là-dessus qu'il faut se pencher. Je ne voulais pas m'étendre trop sur le constat pour m'étendre beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on propose.
Alors juste avant de passer la parole à Philippe Val, juste l'aspect quand même de l'État, puisque notre fil rouge là, c'est est-ce que l'État a abandonné. Donc l'État et les pauvres, c'est la redistribution essentiellement, et puis après le reste, c'est plutôt des structures associatives comme la vôtre. Donc est-ce que on peut relier quand même, est-ce que vous constatez que l'État est moins présent qu'avant sur ces sujets-là?
Je dirais pas moins. Pour moi, c'est une constante. Mais moi, j'irais jusqu'à dire que l'État abandonne les plus pauvres. Oui, alors je pense que je suis un peu directe quand je dis ça. Parce que oui, il y a un système de redistribution. C'est sûr qu'il y a des aides et des minima sociaux. Mais le décrochage du RSA par rapport au SMIC, par exemple, alors qu'au départ, quand a été créé le RMI, c'était bien la moitié du SMIC et c'était arrimé, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, cette question d'abandon des plus pauvres, oui, c'est ce que nous, on ressent, c'est ce que les plus pauvres ressentent.
Alors, Philippe Val, vous êtes le patron de la Poste. Alors, je disais tout à l'heure que les bureaux de poste, ça fait partie, comme les gendarmeries d'ailleurs, du folklore français presque, enfin, des villages. Quoi. On n'imagine pas son village sans son église, sa gendarmerie et son bureau de poste, on va dire. Est-ce que vous avez beaucoup fermé de bureaux ces 20 dernières années et pourquoi ?
D'abord, par rapport à votre question, nous restons toujours présents dans une localité. Nous devons, d'après la loi, avoir 17 000 points de contact. Nous avons toujours 17 points de contact qui fonctionnent. Par contre, c'est vrai qu'il y a deux choses. D'abord, ce ne sont plus les mêmes bureaux de poste qu'avant. Et il y a une altération de ce qui était le fonctionnement initial. Et la deuxième chose, on revient à ce qu'a dit Cynthia Fleury tout à l'heure, ce n'est pas la perception. Et donc, si je vous avais posé cette question, vous auriez sans doute dit, et d'ailleurs je le prendrais bien si vous le pensez, que oui, la Poste a abandonné les territoires. Ce n'est pas la réalité. Nous avons toujours 17 000 points de contact. Lorsque nous fermons un bureau de poste de plein exercice, nous ouvrons une agence postale dans une mairie. Les gens sont totalement positifs là-dessus, ou nous le mettons dans une supérette. D'accord ? Mais il y a une modification, et cette modification est perçue de manière négative. Enfin, Xavier Bertrand l'a dit, bien sûr que la gendarmerie est prise comme un des éléments, mais nous, on est 17 000, et donc c'est vrai qu'il y a eu à peu près 8000 transformations sur 15 ans de nos bureaux de poste. Simplement, nous sommes toujours là, mais sous une autre forme, et cette déformation-là est ressentie négativement. Il faut pas le nier. En tout cas, je ne le nie pas.
D'accord. Alors, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire, transformation, et puis les pistes pour le futur. Là, je voudrais qu'on ouvre la discussion un peu sur qu'est-ce qu'on peut faire, et puis comment vous réagissez un peu à ce qu'ont dit les autres. Alors, Philippe Martin, qu'est-ce qui ne marche pas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour le réparer ?
Juste avant, un petit point sur, puisqu'on a parlé des gendarmeries, des bureaux de poste. Nous, on a regardé, en effet, est-ce que la perte de la gendarmerie ou la perte du bureau de poste est un bon prédicteur du fait qu'il va y avoir un événement gilet jaune ou la baisse ou le sentiment de mal-être et de mécontentement des personnes dans les communes. et ça n'est pas un bon moyen. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous ou une mauvaise nouvelle, mais ni la gendarmerie, ni le bureau
c'est
de poste
pas déclencheur.
Ce qui vraiment... Ce qui... Alors, peut-être.
Ça fait plus de 20 ans qu'elles ont disparu, donc ça ne peut pas avoir un effet de corrélation immédiat.
Y en a, dans les 5 dernières années, il y en a certaines
qui ont fermé. Les communautés de brigade, non, ça fait beaucoup plus longtemps que ça.
Ouais. Mais il y en a quand même un certain nombre qui ont fermé pendant les 5 dernières années.
Non, le travail a été fait avant.
Bon, alors c'est peut-être ça. Alors,
donc s'emmène chez moi, Vermont, Mouidelaine.
Mais en tout cas, voilà. Les bureaux de poste, il y en a qui ferment, et les gendarmeries, il y en a qui ferment. Ça, je peux vous l'assurer, je l'ai vu.
Plus maintenant, ils n'osent pas.
Mais...
Bon, on vous donnera les chiffres, on départagera ça tout à l'heure. Allez-y, continuez.
Les trois choses qui sont les plus importantes, qui sont les meilleurs prédicteurs, c'est école, santé, commerce.
Ouais. Donc voilà. École, santé, commerce.
On peut revenir sur gendarmerie, etc., parce que c'est le folklore français, mais je crois qu'il faut passer à une autre étape.
Excusez-moi, moi je veux bien participer à cette table ronde, mais entendre parler de folklore quand on parle de sécurité, excusez-moi. Je veux bien qu'il y ait une dimension économique, je suis entièrement d'accord, mais la place des gendarmeries et de la sécurité, c'est pas du folklore français. Non, mais c'est aussi avec des comportements comme ça.
C'était pas négatif dans mon esprit, hein.
Ouais, bah, quand même. Non. Attendez, je sais dans quel cénacle je suis, j'ai pas envie de m'énerver ce matin, mais vous pouvez pas parler de folklore. Parce que c'est un service public. Et on parle de sécurité. J'entends bien ce que vous dites
santé,
sur la santé, service public. Le commerce, c'est du lien social et de l'activité économique et du boulot. Mais pour le reste, juste sur le choix des termes. Je ne suis pas un spécialiste de la sémantique, mais quand même.
D'accord, ok. Bon, alors, allez-y.
Alors, moi, je reviens aussi sur les questions économiques. Parce que je pense que c'est vers là qu'il faut aller, se poser un certain nombre de questions. Et je pense que sur la question des inégalités territoriales, je crois qu'il ne faut pas échapper à l'idée qu'il y a un arbitrage à faire en termes de au niveau de l'État et au niveau des régions aussi, entre équité et efficacité au niveau territorial. C'est-à-dire que toutes les études montrent quand même que l'agglomération, le fait que les activités économiques se concentrent sur certains territoires est efficace d'un point de vue économique. Et ça, c'est très difficile à nier. Je sais que pour les politiques, c'est difficile à accepter parce que je comprends bien les implications politiques du fait qu'on ait cette métropolisation, mais toutes les études économiques montrent quand même qu'il y a un impact positif du fait que les activités économiques, il y a un marché local du travail qui est plus efficace, il y a ce qu'on appelle des interactions en termes technologiques qui sont aussi plus efficaces, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile, parce que sinon, si en effet, on pouvait avoir une diversification et une moindre inégalité territoriale des activités économiques, et en même temps en avoir des aspects positifs en termes de productivité et de croissance, ce serait facile. C'est ça la difficulté.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Nous, dans cette note, on dit deux choses. Un, je pense, qui est assez évident, c'est de repartir des territoires et des projets de territoires, et que l'État ne doit pas être prescripteur, mais doit aider un certain nombre d'idées qui sont des idées locales. Et par ailleurs, nous, ce qu'on dit, c'est que il y a des fonds qui nous paraissent mal utilisés. Il y a ce qu'on appelle le ZRR, qui sont en fait des zones franches pour la ruralité, qui ne marchent pas. C'est à peu près 320 millions. Pardon?
Il y
a 320 millions d'euros quand même.
D'accord, mais sur l'ensemble. Ce que je veux dire, autant une zone franche a un effet économique puissant, autant la ZRR, c'est peanuts.
Alors. Les zones franches urbaines n'ont pas d'effet économique. Alors, il y a beaucoup d'évaluations. Moi, je pense que c'est bien de regarder les évaluations. Quand on compare une zone qui reçoit une zone franche qui, juste à côté de deux communes très semblables, une qui reçoit des ZRR et l'autre qui ne reçoit rien, on trouve aucun impact sur l'emploi. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a fait beaucoup en France. Hein, c'est en gros, moi, ce que j'appelle arroser du sable, c'est-à-dire ça ne sert à rien parce que c'est pas ciblé. Et donc, je pense qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est utiliser plutôt cet argent pour avoir des projets d'investissement, pour financer des projets d'investissement. Et ici, en effet, ça peut être, par exemple, salarié le médecin. Ça peut être ici, en effet, baisser les charges, comme vous le disiez tout à l'heure, sur une supérette pour aider à la survie de sa supérette, mais ça doit venir. L'information, elle est très très diverse. C'est-à-dire que dans une commune, ça peut être le problème, ça peut être la supérette. Dans une autre commune, ça peut être le lieu de santé. Et ça n'est pas ni l'État, ni même d'ailleurs à Lille ou à Bordeaux qu'on le saura. C'est au niveau de la commune et du maire. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est repartons de projets de communes
il y a cet argent ZRR dont on dit, nous, qu'il ne sert à rien, il n'a aucun impact. Et c'est pas d'ailleurs qu'en France, hein, toutes les études d'économistes sur ces sujets montrent que ça n'a que très peu d'impact. En revanche, partir de projets à un niveau très local et financer des projets à un niveau très local sur des projets de territoire, ça, on trouve que c'est un impact.
Alors, Xavier Bertrand, qu'est-ce que vous en pensez? Et plus généralement, comment on peut faire pour
plus généralement,
donner plus
il y a des
d'autonomie?
Plus généralement, il y a des solutions, et heureusement, si c'était pas le cas, j'aurais arrêté la politique. Bon,
le vrai sujet, ça,
pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est vrai que depuis des années, les gouvernements de droite, de gauche ou autres, j'en ai fait partie, ont fait un certain nombre de conneries, parce que à chaque fois, les mesures qui sont prises sont des mesures technocratiques, on a des mesures sur le papier, et on ne voit pas si ça marche. Les ZRR, ça ne marche pas, parce qu'à l'intérieur, il y a peanuts. Après, la seule chose...
Parce que ça vient d'en haut aussi, peut-être.
Oui, non, mais c'est aussi parce qu'on a mis en place un dispositif sans chercher justement la recherche de l'impact, de l'efficacité. Exactement. Le jour où politique mettra aussi dans son discours efficacité, peut-être que les choses changeront.
Bon, faut qu'il écoute les économistes.
Par contre, je ne veux pas faire un débat avec vous. Il y a aussi des endroits où il y a des zones franches qui ont marqué, vous savez pourquoi, qui ont marché, parce qu'il y a un accompagnement local.
Ouais.
Il y a un accompagnement local. Et dans ce que vous disiez tout à l'heure, je vous ai dit, la responsabilité n'est pas seulement celle de l'État central, c'est aussi celle des élus. Là où les choses fonctionnent aujourd'hui, j'étais tout à l'heure avec mon préfet de région, Confcall, comme on fait régulièrement, on a un territoire, c'est Sambre, Avesnois, Thiérache. Vous prenez Maubeuge, c'est autour de Maubeuge. C'est pas l'endroit qui se porte le mieux dans ma région. C'est l'endroit, depuis qu'on a mis en place un pacte Sambre-Avesnois-Thiérache, l'État et nous, toutes les collectivités locales, c'est là où nous avons la plus forte baisse du taux de chômage de toute la région, 7,5%, c'est beaucoup plus que la tendance nationale. Je ne vais pas non plus claquer les pétards quand je vois le taux de chômage qui me reste. Mais ce qui veut dire que des mesures ciblées, avec la recherche de l'impact, oui, ça fonctionne, notamment sur la baisse du chômage. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que personne ne doit contester le fait qu'il y ait une métropolisation et qu'elle fait du bien économiquement. C'est vrai. C'est vrai. Et moi-même, j'ai Lille, j'ai Amiens, je ne vais pas freiner mes locomotives, je serais complètement stupide. En revanche, je dois m'assurer aussi, parce que tout le monde n'habite pas dans ces métropoles, j'ai Maubeuge et j'ai autour, tout le monde ne va pas très bien dans ma région, j'ai aussi des gens qui vont pas bien, qu'est-ce que je fais pour les autres? Parce que même dans les métropoles, l'herbe n'est pas totalement verte pour tout le monde. Il y a aussi des gens qui sont sans boulot dans les métropoles. Il y a des gens qui ont des problèmes d'accès au cœur des métropoles. Et plus les métropoles s'agrandissent, plus on habite loin, plus se pose la question aussi du temps de transport, du temps de trajet, voire parfois de la sécurité. Et le boulot du politique, c'est d'assurer qu'on a une politique qui s'adresse aux gens qui vont bien et aux gens qui vont pas bien du tout. Vous me disiez tout à l'heure la question des métropoles. Ok, banco. Mais par contre, si on décide vraiment de remettre le paquet avec un vrai pacte productif sur l'industrie, mes usines n'iront pas s'installer dans le cœur des métropoles. Ils en veulent pas, les métropolitains. Même dans les zones d'activité. En revanche, à Maubeuge, ça les intéresse. L'artisanat, première entreprise de France, c'est pas dans le cœur des métropoles qu'ils iront. C'est effectivement dans ces territoires ruraux et semi-ruraux. Et si l'État n'a pas cette vision de l'aménagement du territoire, j'estime que les grandes régions peuvent, effectivement, en clair, si l'aménagement du territoire les intéresse plus, moi j'estime que c'est notre job.
Et est-ce que vous avez les mains libres? Est-ce que notamment, par exemple, fiscalement, vous pouvez dégager des moyens pour
faire mener ce genre de politique? C'est la proposition que je fais au président Macron depuis maintenant plus d'un an. Alors, il y a la loi 3D, je propose un truc très simple. Si quelqu'un veut s'installer, par exemple, dans la tech au cœur de Lille, honnêtement, il n'a pas besoin de la région. L'immobilier de bureau, deux fois moins cher qu'à Paris La Défense, trois fois moins cher qu'à Londres, donc il n'y a pas de problème. Il y a le métro, il y a des logements, tout va bien. En revanche, si j'ai quelqu'un qui veut installer des services, pardonnez-moi, à Maubeuge, ou l'industrie à Maubeuge, spontanément, il ne va pas y aller. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on me transfère une charge, qu'on me transfère en face une recette, et notamment par exemple de la CVAE, et je veux pouvoir décider moi-même de faire une exonération fiscale pour celui qui viendra s'installer à Maubeuge, notamment dans l'industrie, de 5, 7 ou 10 ans sur le flux, c'est-à-dire implantation ou investissement, parce que vous savez quoi? Je préfère les emplois que les impôts. Je préfère les emplois que les impôts. Alors quand on me dit ça, l'administration me dit « Oui, mais vous allez perdre de l'argent. » Je ne la perds pas parce qu'aujourd'hui, j'ai pas assez d'investissement à Maubeuge. Je joue sur le flux. Alors je sais que c'est assez iconoclaste parce qu'il y a beaucoup d'élus qui me disent « Mais attends, faut pas toucher à nos impôts de production, tout ça. » Faut savoir ce que l'on veut. Moi, j'estime, pardonnez-moi, que l'une des premières clés, c'est la question de l'emploi. Et derrière ça, je suis mort de faim en matière d'emploi. Donc je cherche des solutions. Et celle-ci, je vois comment ça se passe dans des secteurs où il y a eu de vraies incitations fiscales avec un accompagnement. Ça marche et je suis persuadé que ça marchera. Persuadé.
Alors, Claire Hédon va prendre le relais parce que on est absolument dans son sujet, hein, l'emploi. Vous avez initié une expérimentation dans 10 territoires qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur. Et ça marche ?
Oui. Alors d'abord, j'ai envie de rebondir, Xavier Bertrand, sur ce que vous venez de dire. Vous préférez l'emploi aux impôts, et ça tombe bien parce que les plus pauvres, ils préfèrent l'emploi au RSA. Ils veulent travailler. Pourquoi ? Parce que c'est un des moyens d'être inséré dans la société. Donc cette question de l'emploi, elle est vitale. Mmh. On a une baisse du chômage en ce moment, mais pas une baisse du chômage de longue durée de plus de 3 ans. C'est-à-dire, nous, les personnes avec qui on est, qui sont au chômage largement depuis plus de 3 ans, ce taux de chômage-là, il ne baisse pas. Donc Territoire Zéro Chômeur de longue durée est parti d'un constat, c'est que le chômage de longue durée coûte à l'État en gros 43 milliards d'euros tous les ans. C'est 18 000 euros par personne, c'est bien sûr pas ce que reçoivent les personnes. Il y a en gros un tiers de minima sociaux, un tiers d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État en termes d'impôts et de cotisations, et un tiers de dépenses à plus long terme, plus difficile à évaluer mais qui est une réalité, qui sont les questions de santé, d'éducation des enfants, vraiment de ce que provoque l'échec d'être sans emploi. Donc en 2016, une loi a été votée, 10 territoires sélectionnés, et on est sur un vrai projet de territoire. C'est-à-dire, on voit bien dans les territoires qui ont démarré, ce qui fonctionne, c'est quand l'ensemble du territoire s'est mis ensemble, les élus locaux, les artisans, les commerçants, les syndicats, Pôle emploi, les associations locales, et puisque ce chômage de longue durée, de toutes les manières, coûte à l'État, des entreprises à but d'emploi ont été créées, recevant de l'État 18 000 euros par poste, par CDI, enfin par temps plein, pour des travaux utiles à la société qui n'ont pas suffisamment de valeur marchande. Parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on manque d'emploi, mais en fait, on manque pas de travail. Mmh. On sent bien qu'on manque énormément de choses dans l'aide à la personne, dans la protection de l'environnement. Et donc, tous les emplois qui ont été créés sur ces 10 territoires, on en est à 900 embauches, et en ce moment, à peu près 800 personnes employées, parce qu'il y a une centaine de personnes qui, du coup, ont retrouvé du travail ailleurs, parce que ça a généré aussi, finalement, de la formation et des entreprises locales qui ont trouvé un vivier de personnes formées à employer.
Et c'est vraiment différent des emplois aidés ?
Mais dans le principe, ça n'a rien à voir avec l'emploi aidé. D'abord parce que c'est un CDI, parce que pour se reconstruire, il faut être dans la durée, pas simplement, c'est ce qu'on dit sur l'hébergement versus le logement. Et ben c'est exactement la même chose sur le travail. Il faut du temps pour se réinsérer. Donc le CDI est quand même une sécurité. Donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment une façon différente d'utiliser les moyens. Les premiers résultats, c'est un engouement des personnes au chômage pour ce projet-là. Donc on détruit deux idées reçues, les gens ne veulent pas travailler, faux. Et deuxièmement, l'autre idée où on dit bah, on vit mieux avec le RSA qu'avec le SMIC, et ben les gens nous démontrent que pas du tout, ils vivent nettement mieux avec le SMIC qu'avec le RSA. Notre système d'aide n'est quand même pas complètement absurde et tout ne s'arrête pas à partir du moment où vous travaillez, et entre autres par exemple les APL, les aides au logement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça redynamise le territoire. Vous parlez beaucoup des supérettes, et ben sur un des territoires, il y a une supérette qui du coup a rouvert, c'est-à-dire la distribution alimentaire a fermé et une supérette a pu rouvrir parce qu'il y a du coup un pouvoir d'achat sur le territoire qui augmente et un besoin, et voilà comment on recrée du lien social. Et ce qu'on voudrait maintenant, c'est d'abord vraiment, il y a déjà des rapports qui ont commencé à être faits, on est probablement un des projets les plus étudiés pour l'instant, c'est l'étude d'impact sur le territoire en termes économiques. Qu'est-ce que ça change en termes économiques quand les personnes qui étaient sans emploi travail. On n'est pas encore au zéro chômeur, très sincèrement. Et ça, c'est ce qu'on veut expérimenter. Est-ce qu'on arrive vraiment à toucher tout le monde sur ces territoires ? Il y a deux territoires qui sont proches. Il y a des territoires qui est à Lille, hein, mais il y a deux territoires qui sont proches de ce qu'on appelle l'exhaustivité, que sont Pipriac et Boléon, mais ils y sont pas encore. Il y a encore des personnes au RSA sur ces territoires. Comment
exhaustivité, ça veut dire zéro.
Zéro chômeur de longue durée. Alors après, il peut y avoir des personnes qui temporairement sont au RSA parce qu'elles sont proches de la retraite et ou qui sont dans de telles difficultés qu'elles peuvent pas travailler. Mais comment on va toucher les plus exclus qui vont se dire, et je reviens toujours à ce qu'a dit Cynthia Fleury, qui vont se dire, mais ce projet, il est pas pour moi. Moi, je suis trop en difficulté, c'est pas possible. Et comment on va les convaincre que s'ils peuvent, rentrer dans un projet comme celui-là? Donc, cette étude d'impact, elle est vraiment importante. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Si vous me permettez, je continue là-dessus. C'est une extension. Et toute la bataille, elle est là-dessus. 10 territoires pour expérimenter, ce n'est pas suffisant. Il en faudrait une centaine maintenant.
Centaine. Donc,
voilà. D'accord. On est en dialogue avec le gouvernement là-dessus. Le président de la République nous l'a promis. il y aura une extension, on n'est pas très inquiet là-dessus. Mais maintenant, combien de territoires et dans quelles conditions, c'est ça qui nous inquiète.
Expliquez ce qui bloque.
Ce qui bloque, c'est que nous, on veut vraiment expérimenter le zéro chômeur.
Qu'est-ce qui bloque? Le président vous dit banco, le ministère vous dit
alors,
banco.
Alors on va
pourquoi
passer probablement...
ça ne se fait
pourquoi
pas
y a pas de loi.
Je fais, pardonnez-moi, je ne prends pas votre boulot,
mais
je crois connaître la réponse. Moi, je suis partenaire depuis le début. J'ai aussi appuyé à chaque fois ce
Vous en avez combien
mouvement.
Chez vous?
On en a aujourd'hui une oui. Mais on est déjà candidat pour en ouvrir d'autres. Et en plus, je dis pas que c'est bien, je mets aussi un tout petit peu de moyens, parce que j'y crois. Mais expliquez ce qui bloque.
Alors, ce qui bloque, je pense qu'on renverse un peu la table avec un projet comme celui-là. Ce qui bloque, c'est une partie sur la réalité du montant. En fait, très honnêtement, on demande plus que 18 000 euros maintenant. Pour que ça retourne vraiment, c'est plutôt 22. Donc la question du montant est un des nerfs de la guerre. L'embouteillage parlementaire, pour l'instant, ne nous aide pas. On devrait, a priori, passer par une proposition de loi qui vienne du Parlement, évidemment, du groupe majoritaire. La dernière loi a été votée à l'unanimité. Pour nous, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Ces questions-là doivent dépasser les clivages droite-gauche et on doit réussir absolument. Et nous, c'est un de nos objectifs, qu'on repasse à l'unanimité. Ce qui bloque maintenant, c'est d'y mettre les moyens, d'y mettre l'ampleur sur 100 territoires, de ne pas faire que des promesses et d'aller concrètement... on y va. Voilà. On espère vraiment, on y a une fenêtre de tir, entre guillemets, fin avril. On espère vraiment que ça passe fin avril, parce que vous savez bien que le temps qu'il y ait tous les décrets d'application, qu'on sélectionne les territoires, ça met du temps à se mettre en route. Mais je voulais réinsister à quel point ce projet est un projet de territoire qui part de la base, et c'est ça qui fait que ça marche. Voilà. Mais il y a une responsabilité du gouvernement et de l'État de donner suffisamment de moyens, et surtout la question quand on demande 100 territoires. Honnêtement, si on veut évaluer un projet comme celui-là, c'est pas avec 10, 20 ou 30 territoires. Il en faut plus. Si
donc
on
c'est d'ici la fin de l'année, on a la loi.
On espère.
Ouais, mais attendez, je voudrais juste pointer une chose quand vous dites tout à l'heure, l'État est responsable. La question, c'est qui dirige ce pays? Non, mais est-ce que ce sont les politiques ou est-ce que même quand les politiques veulent, on a un filtre technocratique et comptable qui
c'est,
empêche
c'est ça
de
que
faire
vous voulez
parce
dire
que la
quand
vérité,
vous demandez ce qui bloque,
c'est l'activation
la
des dépenses actives. Tout chômeur indemnisé aujourd'hui, allez, on va dire en moyenne 14 000 euros par mois. 14 000 euros d'indemnisation. L'idée, c'est de dire que cette somme, et un peu plus, va être mise à disposition. Sauf que certains vous disent, dans les ministères et tout ça, oui, mais attendez, il va y avoir un effet d'aubaine. Oui, mais derrière, on retrouve du boulot à ces personnes. C'est qu'à chaque fois, si vous voulez faire de la politique efficace, faut arrêter de faire de la com. Il faut des marges de manœuvre. Les marges de manœuvre, on les a, elles existent. La seule chose, c'est qu'ils vous disent, c'est pas le même budget. C'est vrai.
Donc c'est la bureaucratie.
C'est le budget de l'UNEDIC par rapport à un budget puissance publique. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Ça vient de notre portefeuille, du même. Et ce décloisonnement, il vous donne des marges de manœuvre. C'est comme quand on a décidé de mettre un terme au fameux contrat aidé. Le budget de l'État fait l'économie, pas le budget de l'UNEDIC. Mais personne ne l'a dit et personne n'a regardé. Des marges de manœuvre existent, il faut une véritable volonté politique. Et donc, si le président vous dit banco, le gouvernement des présidents de région, il y a un consensus politique là-dessus. Mais mince, qui dirige dans ce pays? C'est
d'accord.
Tout.
Honnêtement, bon. Ça coince beaucoup auprès de l'administration. Oui, mais nous, on en prend notre part de responsabilité du pourquoi on n'arrive pas à les convaincre. Enfin, moi, ça m'interroge beaucoup quand on n'arrive pas à convaincre, alors que réellement, on le montre sur le terrain. Alors, il y a des critiques, on ne vous dit pas que c'est formidable. Vous imaginez bien, en un an, une entreprise, 80 personnes embauchées, dont des gens en très grande difficulté. Évidemment que c'est compliqué. Évidemment que ça pose des questions de management, parce qu'on demande au directeur de l'EBE, de l'entreprise à but d'emploi, d'être à la fois un manager exceptionnel, un DRH avec des personnes en difficulté et en plus d'être quelqu'un qui va pouvoir aller chercher de nouveaux marchés.
Donc effectivement, l'administration c'est un petit peu le point bloquant, mais bon, c'est
voilà.
Aussi souvent le cas en France. Alors,
une question.
Passer la parole à Hippolyte parce qu'il avait envie de réagir là-dessus. Puis après Philippe, et puis il y a Philippe Val aussi qui s'est pas encore exprimé. Hippolyte.
Bon, évidemment, la question de l'insertion et l'insertion des personnes en grande difficulté, éloignées de l'emploi, etc., elle est cruciale. L'autre question cruciale, c'est de donner de l'espoir. C'est-à-dire que toute personne, finalement, grandissant dans un territoire, puisse aussi accéder à un emploi, à des ressources. Et on avait vraiment évoqué le fait que, justement, il y a beaucoup d'argent qui est redistribué. Il y a beaucoup d'argent en France, mais en effet, si cet argent ne sert pas à pouvoir construire un avenir, et bien finalement, il ne sert à rien. C'est un petit peu ce qui a été dit ce matin de façon beaucoup plus élégante par Cynthia Fleury. La clé, on la connaît, c'est l'éducation. Il n'y a pas tellement à discuter. Je veux dire, c'est quand même d'avoir un bon diplôme qui vous permette d'accéder. Et je pense qu'il faut vraiment focaliser sur le niveau Bac plus 3 qui donne la compétence, une compétence professionnelle qui elle-même permet d'accéder à l'emploi. Alors évidemment, il faut quand même être un minimum réaliste et faire en sorte que l'on ouvre des formations qui soient en adéquation avec les besoins des régions. Et mon voisin, et puis ce que vous faites à la région de France, c'est vraiment
des besoins des entreprises,
bien sûr. Il y a des besoins locaux. On est quand même dans des situations où il y a des gens qui ne trouvent pas d'emploi et des entreprises qui ne trouvent pas de compétences. Et donc, voilà, on ne sera pas dans un monde où tout le monde sera obligé de quitter sa région et d'être mobile, etc. Ou d'aller à Singapour, je ne sais pas quoi. Certains, et une grande partie, veulent rester chez eux et construire quelque chose chez eux. C'est l'enjeu important. J'en avais parlé un petit peu de la loi de programmation sur la recherche ce matin. Oui, bon, il y a évidemment que l'aspect recherche lui-même, c'est une activité que, par définition, un petit peu comme l'activité économique, se concentre. On ne peut pas avoir dans toutes les villes de 10 000 habitants un grand laboratoire de physique. On ne cherche pas ça. Mais on peut avoir des formations Bac plus 3 et des formations professionnalisantes. Il faut pouvoir, d'une certaine manière, à la fois déconnecter le niveau, je dirais, master, doctorat, recherche de niveau, et le Bac plus 3. Le Bac plus 3, c'est important. Pour moi, c'est l'enjeu.
Philippe Val.
Si vous me permettez juste, on a juste le système éducatif, un des plus inégalitaires qui existent. Donc, l'échec scolaire des personnes les plus pauvres est absolument une réalité et ce n'est pas de leur responsabilité. L'étude PISA montre bien qu'on n'est quand même pas bon sur cette question-là.
En 1950, il y avait 5% d'une classe d'âge qui avait le bac. Il faut faire un petit peu. Rencontrer des personnes qui sont en situation difficile, etc., engendre ce sentiment d'urgence et je le respecte. Vous voyez, on peut pas forcément dire qu'on est toujours les pires que tout.
Disons que la mobilité sociale n'est pas très, très, très.
Et en plus, je parlais du supérieur, mais.
Dynamique.
La question, c'est l'accès au bac ou c'est l'accès à l'emploi ? Et la question, ça a été dit tout à l'heure. Oui, mais c'est pas ce que vous venez de dire aussi. Et c'est la question de l'ascenseur social. C'est-à-dire, on en pense ce qu'on veut. Nous sommes l'un des pays, je crois qu'il n'y a que la Hongrie qui est derrière nous. Il faut 6 générations pour changer d'étage dans l'immeuble de la société française.
Voilà, c'est la mobilité sociale.
Et derrière, moteur des gilets jaunes et ce qui est toujours là, il y a ça. Et les gens n'accepteront plus longtemps. Et ça, par rapport à 1950, sacré changement, et pas en bien.
Ouais. Alors, Philippe Val, allez-y.
Oui, peut-être 3 remarques. D'abord, il me semble qu'on s'est concentré sur l'État. Xavier Bertrand nous dit la légitimité, la puissance du politique, c'est de faire des choses. Je crois que c'est essentiel. Attention, il y a un éléphant dans la pièce. C'est quand même le comportement des gens, c'est-à-dire l'évolution de la société. Pourquoi est-ce que nous transformons des bureaux de poste ? Eh bien, je vais vous le dire très simplement. En 2010, il y avait 2 millions de personnes tous les jours dans un bureau de poste. En 2020, il y en a 1,2 million. Et ça, c'est ni l'État, ni le PDG de la Poste qui l'ont décidé.
La moitié des gens sont partis.
Non, mais je ne culpabilise personne, parce que ce sont des mouvements de société. Donc, n'oublions quand même pas l'évolution des mouvements de société. Et encore, je ne vous ai pas parlé de l'envoi des lettres et du fait que plus aucune, ni aucun des participants dans la salle n'écrit. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que n'oublions pas l'évolution de la société à laquelle les acteurs, politiques d'abord, mais aussi économiques comme nous, devons réagir. Mon deuxième point, c'est que nous sommes en train de travailler sur la Poste 2030, c'est-à-dire qu'on fait notre plan stratégique et on se dit, qu'est-ce que nous ferons dans 10 ans? Pas dans 3 ans, ce n'est pas une projection financière. Dans 10 ans, quel sera le rôle de la Poste? Et sur ce sujet territorial, notre ligne stratégique, c'est un engagement de ma part, c'est d'être partout présent aux côtés des projets de territoire portés par les politiques. Nous nous engageons. Simplement, si vous nous demandez en même temps d'avoir la même forme d'intervention sur le territoire qu'il y a 30 ou 40 ans, on ne pourra pas. Ce point-là est clé. Nous nous engageons à le faire. Enfin, comment le faire ? Moi, je crois à la mutualisation des efforts. Qu'est-ce que je veux dire ? Et c'est lié à l'évolution de la société. On fait très attention, puisqu'on a des millions et des millions de clients, au comportement des gens. Et je vois que les gens ne vont plus dans les bureaux de poste, ils ne vont d'ailleurs plus du tout dans les agences bancaires. D'accord ? Je vois que les gens n'envoient plus de courrier. comment on peut leur être utile autrement. Et je pense qu'il y a la nécessité pour nous, puisqu'on va rester dans les territoires, de trouver les formes de coopération avec la France Service, avec des maisons, des régions, des départements et des collectivités. Donc voilà un accord, un acteur public, La Poste, qui dit en 2030, nous devons avoir une place dans les territoires. Simplement, il faut la trouver. Et il faut la co-construire, parce qu'on ne s'en sortira pas tout seul.
Et vous me dites, quand on discutait ensemble, vous m'avez dit un truc intéressant hier. Je vous disais, il suffit de transformer les bureaux de poste en réception pour les colis, pour le commerce électronique. Et vous m'avez dit, non, parce que c'est pas le bureau de poste le mieux placé, ça serait plutôt le McDo.
Non, je vous ai pas dit le McDo. Non, je n'ai pas pu vous dire le McDo. Non, je vous ai dit, c'est la supérette. Pourquoi c'est la supérette? Et c'est d'ailleurs pour ça que la transformation de nos bureaux de poste fonctionne bien. C'est parce que la supérette, surtout quand elle est gérée par un artisan, Xavier Bertrand l'a dit, elle est ouverte 60 heures par semaine. Ouais. Et nous, notre bureau de poste, il est ouvert 35 heures par semaine. Enfin, j'en profite tout de suite, si jamais vous êtes séduit par la théorie du complot, nous ne fermons pas des bureaux de poste pour qu'il y ait moins de gens dedans, d'accord ? Les gens viennent moins. Un point, c'est tout. C'est ça l'inducteur. Alors on me dit, vous baissez les horaires, il y a moins de gens. On baisse les horaires parce qu'il y a moins de gens. Vous êtes chef d'entreprise, vous adorez que vos bureaux de poste soient pleins, vous adorez vous dire, tiens, je vais pouvoir rajouter une postière. Ne nous trompons pas, il n'y a pas de complot postal. Nous sommes... Non, mais c'est important parce qu'on entend dire, ils s'en vont. Non, on s'en va parce que les gens viennent moins chez nous. Et d'ailleurs, on ne s'en va pas. Et en 2030, on veut trouver les processus de construction avec le secteur associatif et avec les politiques, représentés ici par Xavier Bertrand, pour rester dans les territoires, parce qu'on pense que l'économie et la société française, sans rapport avec le folklore, ont besoin de la poste et surtout des postiers.
Alors, on va prendre des questions dans la salle, rapidement. On va en prendre trois. À la volée, puis mais j'oublie pas que Philippe Martin bouille parce qu'il veut s'exprimer. Mais allez, le micro, qui veut poser. Alors je vois une main qui se lève tout au fond. Et en haut. Alors là, je vois au premier rang en haut. Ah oui, c'est parce que vous êtes dans la trajectoire du projecteur, c'est pour ça que je voyais pas bien. Oui, ça y est, je vous ai vu. Donc il y a aussi une... allez-y.
Bonjour, merci pour vos interventions. Je ne sais pas si on m'entend.
Si, très bien.
Moi, je voulais intervenir parce que je suis parisienne, mais j'ai vécu 7 ans dans le Vimeux, donc au fin fond de la Picardie. Donc j'ai connu la praticité des transports parisiens, mais aussi le gros désert picard où il faut faire 40 minutes pour aller à l'école en voiture, généralement une famille par voiture ou une personne par voiture. Ma question est la suivante. Moi, je suis reliée à Ville. Donc c'est la ville sans, enfin c'est la plus petite ville après Amiens, on va dire. Donc 35 minutes du fin fond du Vimeux pour y aller. Donc c'est là où j'avais mon école, mon collège, mon lycée. Et en fait cette ville-là, elle a été soi-disant redynamisée avec des gros commerces. Donc en fait c'est la mort du centre-ville et on en entend beaucoup parler. Donc on a redynamisé le secteur avec je sais pas des Gosports, des Intersports qui sont en périphérie de la ville. Les centres sont morts. Et moi, dans mon petit Vimeux, vraiment dans au fond de la campagne, donc on est entouré de champs d'éoliennes, par exemple, mais on n'a pas de commerce de proximité. C'est-à-dire que dans mon village, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de boucherie, il n'y a pas de poste. Donc après, c'est des communautés de communes. Mais donc ça veut dire qu'à l'échelon local, on n'a pas de cohésion sociale. Et mon problème, c'est vraiment le lien social et la cohésion sociale. Voilà, c'est bien de redynamiser les territoires pour faire de l'emploi. Mais avec des centres morts et des gens qui ne se parlent plus, qui ne se connaissent plus en tant que voisins, enfin, je trouve ça...
C'est un peu ce qu'on avait vu d'ailleurs sur les Gilets jaunes, où ils disaient, les ronds-points, c'est aussi une question de...
C'est une façon de se retrouver.
Bien sûr.
Comment on peut retrouver un équilibre entre redynamiser économiquement, recréer de l'emploi, redynamiser un territoire et une ville, mais aussi recréer du lien social entre les gens dans les tout petits villages, en fait, parce que c'est aussi ça, que des jeunes... veuillent partir et ne veuillent plus rester chez eux, c'est quand même,
Merci pour votre témoignage qui est tout à fait intéressant. Alors, est-ce que il y a des, oui, allez-y, donnez le micro là à la dame, la dame du balcon, voilà. Allez-y.
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la qualité des interventions. Moi, je me pose la question. J'ai l'impression, et je ne sais pas si c'est sous forme de question ou de sentiment, que l'État détricote au fur et à mesure ce qui marche bien en remplaçant par de nouveaux plans annoncés à grand renfort de com. Donc, par rapport à ce que vous disiez, Xavier Bertrand, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il n'y a pas qu'une histoire de technocratie, il y a quand même une histoire d'ambition politique. Un exemple, justement le pacte d'ambition pour l'inclusion, qui remplace ce qui s'appelait avant l'insertion par l'activité économique, qui touche les gens dont parlait Claire Hédon, les plus exclus sur les territoires, à l'intérieur des structures qui interviennent pour l'insertion de ces plus exclus et qui travaillent dans la dentelle sur le long terme. Et il y a une échelle qui s'appelle les ateliers et chantiers d'insertion. Ils sont à la peine parce qu'ils n'ont plus assez de budget, plus assez d'aide à la personne, plus assez de budget pour la formation que vous dites être essentielle. Donc d'un côté, vous voyez, on est là à dire il faut faire quelque chose pour les exclus, pour les territoires, mais de l'autre, on met en difficulté tout un tissu de structures qui interviennent localement, concrètement et efficacement.
Donc il y a un rôle des élus locaux aussi, bien entendu. Ah bah, il y a quand même non. Il dit que c'est pas uniquement l'administration qui bloque forcément.
Non, ce que dit madame, je veux pas me faire votre porte-parole au travers de votre pensée.
Le micro, là.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une question d'ambition politique, c'est bien ça. OK, sauf que le problème c'est que la politique est en train de devenir un art d'exécution de plus en plus et que le problème des politiques publiques, c'est qu'elles ont du mal à faire du sur-mesure également. Et donc si la puissance publique n'est pas capable de le faire, il faut contractualiser. Parfois avec des administrations, des entreprises, parfois aussi avec des associations. Ça veut dire accepter de se délaisser d'une partie de ses responsabilités. L'important, c'est que ce soit fait et que ça marche. D'où la place, justement, de la contractualisation. Je pense que c'est ça. Mais derrière, quand vous avez des écueils réglementaires ou des écueils budgétaires, la question, c'est simple, c'est qui décide ? Et au bout d'un moment, dans la vie, il faut savoir compter. Je vais vous donner juste un exemple. Je suis peut-être pas le meilleur gestionnaire du monde, parce que j'ai décidé que dans ma région, tant que je serai président, on ne fermera aucune gare tant qu'il y a des gens qui prendront le train dans les gares, et qu'on ne fermera aucune ligne. Aucune ligne. Ça me coûte de l'argent. Mais je sais pertinemment que si vous fermez, il y aura un sentiment d'abandon terrible. Et ceux que ça intéresse, sans faire un débat politique ici, prenez une étude qui avait été faite par l'IFOP sur le vote pour les extrêmes en fonction de l'éloignement par rapport à la gare la plus proche, et j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Comme de la même façon, j'ai décidé dans les trains de la région de garder tous les contrôleurs. Ça me coûte 60 millions d'euros par an sur une facture de 500 millions d'euros. Mais jusqu'à preuve du contraire, de garder un lien humain, je sais pas pourquoi, je trouve pas ça complètement stupide.
Et le bus, ça
mais
remplace
ça
pas.
Me coûte, c'est vrai, et je suis du coup peut-être pas le meilleur gestionnaire du monde. Mais en tout état de cause, je pense que si on ne rentre pas cette dimension humaine et qu'elle soit là pour contrecarrer la seule dimension comptable et économique, j'estime qu'autrement, je ne serais pas dans mon boulot.
Et psychologiquement, un bus, ça ne remplace pas.
Pardon ?
Psychologiquement, un
SNCF,
bus...
SNCF, ça veut dire Société Nationale des Bus Français ?
Non, mais ils ont des bus, on peut
Vous
on
avez
peut
les
imaginer.
Mêmes conditions de sécurité ?
Oui.
Vous non. avez les mêmes conditions de pollution ? Vous transportez autant de monde ? Bien sûr que non. Donc la question qui se pose, c'est que vous... Et pourquoi vous n'essayez pas dans ces cas-là des trains plus légers, comme en Allemagne ? Et pourquoi vous n'essayez pas des trains plus verts ? Et pourquoi on ne nous donne pas la main sur les infrastructures ? On revient au tout routier ? Je sais pas, je pensais qu'il y avait une autre ambition dans le pays.
D'accord. Donc, pas de bus. Philippe Martin.
Non, c'était pour revenir sur la question sur les centres-villes. Je pense que c'est tout à fait en cohérence avec ce qu'on disait, en particulier question de socialisation. Je pense quand même que le gouvernement a pris la mesure de ces problèmes. En tout cas, il y a une intuition qui est derrière un certain nombre de programmes sur Petite Ville de Demain, Action Cœur de Ville. La question, c'est d'avoir en effet, et là, c'est l'exécution, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui va être donné. Mais je pense que Il y a une prise de conscience à la fois au niveau du gouvernement et puis au niveau des élus locaux sur cette question que on est allé trop loin sur les hypermarchés, loin du centre-ville et qui certainement désocialisent. Alors moi j'avais une question sur pour Xavier Bertrand, je pense vous avez parlé des impôts de production et je trouve que c'est intéressant parce que c'est en effet comme vous le savez une réflexion du gouvernement actuel sur laquelle d'ailleurs le Conseil d'analyse économique a travaillé. Je trouve intéressant votre position parce que il se trouve que sur le fait qu'on puisse donner par exemple sur la CVAE une certaine liberté pour aller un petit peu plus bas, certainement encadré, pour pas faire trop de concurrence fiscale, mais un peu quand même, hein, mais de dire on peut avoir un projet de territoire. Et vous l'avez dit, le problème là, ce qui bloque, ça n'est pas l'État, puisque l'État est plutôt favorable à laisser un peu plus de liberté au territoire sur cet impôt de production, la CVAE, c'est les présidents de région, sauf vous. Donc je vous donne acte là-dessus. C'est l'Association des maires de France. Et donc là, ce qui bloque, c'est plutôt au niveau local de dire, nous, on ne veut pas avoir cette liberté de pouvoir attirer des entreprises avec des impôts de production plus bas. Donc, de ce point de vue, je pense qu'on sera d'accord.
Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Je veux pas excuser leur position, je veux juste l'expliquer. C'est qu'il y a plus de confiance. C'est-à-dire que si on remplace les impôts de production par une dotation, ils disent cette dotation ne sera pas suffisamment dynamique et on y perdra. Moi, je préfère prendre le risque parce que je suis mort de faim. Moi, je suis, pardonnez-moi, dans une course de vitesse pour faire reculer les causes des extrêmes. J'ai bien dit les causes. La misère et la colère. Et je pense que c'est possible. Donc voilà pourquoi je veux aller plus vite que d'autres. Et quand certains me disent, oui, mais tu vas faire une concurrence fiscale entre les territoires, quand depuis des années, je suis la région où il y a le plus fort taux de chômage, ça gêne pas les autres. Parce que c'est chez moi. Et donc, derrière, je sais pertinemment que je dois chercher d'autres atouts. Et je le fais sur le flux. Mais vous avez entièrement raison. Le problème, c'est que certains se disent, est-ce que l'on peut réussir avec juste des bouts de réforme? Je pense qu'il faut un changement complet. Et ce qu'on vous disiez tout à l'heure sur la question cœur de ville, pour répondre à la dame qui était tout au fond, notamment sur Abbeville, il y a deux sujets. Il y a deux sujets qui sont posés. C'est la question de la mobilité et du commerce. L'avantage qu'il y a en politique, c'est que même s'il est tard, il est jamais trop tard. Des erreurs ont été commises, notamment sur les commerces en périphérie. Aujourd'hui, l'opération cœur de ville est menée par l'État. Nous venons aussi la région avec 141 cœurs de centre-bourg et de ville où nous remettons de l'activité, mais où j'ai demandé aussi un engagement. Si vous voulez l'argent de la région, vous ne développez plus vos périphéries. Vous êtes libre, hein, mais si vous voulez développer vos périphéries, vous n'aurez pas l'argent de la région. Et dans ces conditions-là, on s'aperçoit qu'on arrive à une donne beaucoup plus équilibrée, et c'est la question des transports. Parce que vous avez parlé des lignes de train existantes, il y a aussi des lignes de bus interurbains. On a décidé de faire le bus à 1 euro, justement pour toutes les lignes interurbaines, pour que les gens ne soient pas prisonniers chez eux. Et vous savez aussi peut-être que dans la région, on a mis en place l'opération des voitures à 2 euros pour les chômeurs. Quelqu'un qui est au chômage, qui n'a plus de boulot, nous lui mettons à disposition un véhicule de la région, d'un partenaire de la région, pendant sa période d'essai et un mois après, de façon à ce qu'il puisse avoir accès à l'emploi. J'essaye au maximum.
Et ça marche bien,
on en a 500 000 de véhicules qui ont tourné ou qui circulent. Ça pourrait même marcher encore davantage parce que les gens pensent que c'est pas pour eux. Mais tous ces leviers-là donnent le sentiment qu'ils ne sont pas abandonnés. Et je pense que ça, c'est très important, au-delà même de la seule dimension macro.
Eh bien, écoutez, il est temps maintenant de rendre l'antenne, comme on dit. Je suis vraiment désolé, il y a encore des questions qui fusaient. Moi, ce que je retiens quand même, c'est un mot. Vous avez deux mots que vous avez donnés, c'est ambition politique. Alors c'est une ambition qui dépasse celle de l'État, qui est celle aussi de tous les acteurs, pourvu qu'on leur en laisse la possibilité. Merci à tous. Et je repasse la parole à Emmanuel.